Vous êtes sur RTL. Oui.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 5 mai, un débat de moins en moins fumeux autour du cannabis. Et si l'État produisait du chanvre et le mettait en vente libre pour toutes les personnes majeures? Emmanuel Macron souhaite un grand débat. Nous l'ouvrirons avec un rapport parlementaire rendu ce matin. On manque de bras, non pas à vacciner cette fois, mais pour faire tourner l'économie. On recrute en masse dans le secteur agricole, mais aussi des agents d'entretien ou encore des serveurs. Dans RTL Midi aussi, un journaliste français affirme dans une vidéo avoir été pris en otage par un groupe de djihadistes au Mali. Le Quai d'Orsay confirme sa disparition. Éric Dupond-Moretti, de plus en plus politique, le garde des Sceaux pourrait se lancer pour les régionales dans les Hauts-de-France. Le Waterloo du PSG, c'était hier soir, face aux Anglais de Manchester City. Les Parisiens ont été éliminés de la Ligue des Champions. Et puis nous partirons sur l'île d'Elbe, où Napoléon l'exilé y est encore célébré. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Ça défile au-dessus de nos têtes.
Et oui, c'est vrai que c'est un ciel bien changeant, entre nuages, éclaircies, quelques averses, surtout sur le nord-est. Le tout accompagné de vent, de la neige sur les massifs de l'Est, alors dès 900 mètres sur les Vosges. Encore quelques averses sur les Alpes du Nord, de pluie ou de neige, dès 1400 mètres. Un petit risque d'averse également sur les Pyrénées. Et puis du sud-ouest au massif central, là c'est un temps sec sous un ciel variable et du très beau temps près de la Méditerranée et la Corse. Les températures, elles sont en baisse, surtout au nord. C'est frais pour la saison, de 11 à 14 degrés et de 15 à 23 au sud.
Et la question du jour sur RTL.fr, faut-il légaliser le cannabis? Eh bien vous êtes 23% à dire oui, à 68% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, est-ce la meilleure solution pour lutter contre le trafic notamment? C'est une question qu'on se posera. Commémorer ou célébrer les 200 ans de la mort de Napoléon, même si la nuance entre les deux verbes me paraît très, très infime. Mais enfin, c'est le débat du moment, commémorer ou célébrer. On pourra également évoquer dans la lutte contre le cyberharcèlement, la justice doit-elle confisquer le portable des adolescents harceleurs? C'est la méthode du procureur de la République d'Amiens. Et puis les supporters du PSG, dans quel état d'esprit sont-ils? Ça doit être dur quand même d'être supporter du Paris Saint-Germain après autant d'échecs et après autant d'années. Rendez-vous tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, une bonne nouvelle. L'économie, elle aussi, se déconfine et la reprise devrait être favorable à l'emploi. Les entreprises ont 2 700 000 projets de recrutement cette année, soit plus qu'avant la pandémie. D'après l'enquête de Pôle emploi et du Crédoc, dans le top 10, on manque de bras dans le secteur agricole pour les agents d'entretien et les serveurs. Les terrasses rouvriront le 19 mai et au bar-restaurant Le Stadium à Clermont-Ferrand, eh bien, on embauche Guillaume Frixon.
En moins d'une semaine, Bertrand Roussel a déjà rencontré plus d'une vingtaine de prétendants pour le poste de serveur polyvalent CDI à pourvoir immédiatement.
Cuisine et restauration et CAP d'aptitude en cuisine aussi. Qu'est-ce que vous préférez, la cuisine ou le service?
Franchement, entre les deux, le service. Oui.
Marie, 22 ans, cherche donc son premier emploi et les offres ne manquent pas.
Ah oui, oui. Je sais que si je vais marquer serveuse, on va dire Vichy ou Clermont, je vais avoir des tonnes et des tonnes d'annonces, quoi.
Dans son bar-restaurant du Stadium, Bertrand peut servir 65 couverts à l'intérieur, 90 sur sa terrasse. Alors cette fois, il privilégie pour le recrutement l'expérience à tout prix.
Il va falloir être très bon tout de suite, pas bon, très bon, parce qu'il y a une telle attente.
Et pour remettre son restaurant en ordre de marche, il y a au menu bien des questions.
Je ne sais pas où on va. J'ai peut-être des clients qui ont perdu leur emploi, j'ai peut-être des clients qui ont coulé leur affaire. Donc ça va être la surprise totale. Moi, je suis prêt, moi. Prêt mais inquiet.
Pour la réouverture le 19 mai en terrasse, ce restaurateur espère également que la météo sera au beau fixe.
Et nous aussi, on l'espère, Guillaume Frixon à Clermont-Ferrand. À l'inverse, cette crise continue de créer des pénuries, au point que le groupe automobile Stellantis, issu de la fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler et qui regroupe 14 marques, n'a pas pu produire 190 000 véhicules au premier trimestre. Il manquait cruellement de puces électroniques, Christophe Bourreau.
Oui, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs, ces petites puces de la taille d'un grain de sable présentes absolument partout dans nos voitures actuelles, du GPS au tableau de bord. Et il y a pénurie, car pendant le confinement, les producteurs de ces puces installés en Asie ont privilégié les fabricants de téléphones et d'ordinateurs dont la demande a explosé avec le télétravail. Résultat, tous les constructeurs sont touchés. Ainsi, Ford pourrait perdre plus d'un million de voitures cette année. Et pour Stellantis, vous l'avez dit, 190 000 voitures non produites depuis janvier et 8 des 44 usines du groupe sont impactées. Conséquence, suspension de certaines lignes de montage et des jours de chômage technique à la clé, comme à Sochaux. 28 jours d'arrêt au total. Toutefois, le site a pu redémarrer grâce à une astuce. En effet, pour la Peugeot 308, le bon vieux compteur à aiguille a fait son retour à la place du compteur numérique. D'ailleurs, pour les clients, il pourrait y avoir une ristourne sur ces modèles. On parle de 400 euros, c'est rien d'officiel, mais il y aurait une ristourne. Aujourd'hui, donc, pas de pénurie dans les concessions, mais cela risque d'allonger les délais de livraison, d'autant que, selon les spécialistes, eh bien, cette crise risque de durer au moins jusqu'à la fin de l'année.
Christophe Bourou, la campagne des régionales s'emballe après le pataquès chez les Républicains. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, est en discussion pour se lancer dans la région des Hauts-de-France, soit dans la liste LREM, soit comme tête de liste. Il veut entrer dans la bagarre face à Xavier Bertrand et au Rassemblement national, Jacques Seret.
Oui, le ministre de la Justice en parle depuis plusieurs jours avec l'actuel candidat de La République En Marche dans les Hauts-de-France, Laurent Pietraszewski. Et selon nos informations, c'est le secrétaire d'État en charge des retraites qui le pousse à entrer dans la mêlée. « On a besoin de toi », lui a lancé Pietraszewski, qui plafonne à 10% d'intention de vote dans les sondages. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Éric Dupond-Moretti, originaire de Maubeuge dans le Nord, a toujours dit qu'il voulait être un rempart contre le Rassemblement National. Alors comment va-t-il s'impliquer dans la campagne? Ira-t-il jusqu'à prendre la tête de l'île? C'est toujours en discussion, nous indique un cadre de la Macronie. Je pense que ça va aboutir, nous confie d'ailleurs ce matin un ministre. Si c'est le cas, Éric Dupond-Moretti ne serait pas le seul membre de l'exécutif à s'investir dans les Hauts-de-France, puisque Gérald Darmanin, son collègue de l'intérieur, a annoncé sa candidature au départemental dans le Nord, à un an de la présidentielle. Si officiellement il s'agit de lutter contre le RN, c'est aussi une manière pour le chef de l'État d'envoyer ses poids lourds face à Xavier Bertrand, de le gêner en le forçant à un accord entre les deux tours. Les grandes manœuvres se poursuivent, façon aussi d'éclipser le micmac en PACA de ces derniers jours.
Jacques Seret, en direct de l'Élysée pour RTL. Bah justement, chez les Républicains, vous y faisiez allusion, le parti apporte finalement son soutien à Renaud Muselier, tête de liste en région PACA, après l'assurance qu'il n'y aurait ni ministre ni parlementaire LREM sur sa liste. Christian Jacob, le président du parti, s'en félicitait ce matin sur RTL. Jean Castex, a-t-il dit, a reçu une gifle qui a retenti jusqu'à l'Élysée. Dans un instant, le cannabis, faut-il le légaliser et le faire produire par l'État.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Faut-il légaliser le cannabis? C'est la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Et si vous avez l'impression que ça fait 40 ans qu'on s'interroge, ce n'est pas qu'une illusion. Cette fois, un rapport parlementaire prône une légalisation régulée. La France est le plus gros consommateur d'Europe. 5 millions d'usagers, dont 900 000 personnes qui fument un joint chaque jour. Et vous avez envie d'y revenir avec les auditeurs, Pascal Proulx.
Tout à fait, Christelle. Et quand on étudie un peu la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments qui plaident, paradoxalement, curieusement, ça peut surprendre, pour légaliser le cannabis. D'abord, ça casserait sans doute le trafic et cette économie souterraine. Ce serait aussi acter le fait que la consommation très forte existe en France. Légaliser le cannabis, c'est aussi augmenter les recettes fiscales, hein, disons-le, c'est aussi simple que ça. Ça permet également de soulager certaines douleurs que les antalgiques traditionnels ne soulagent pas. Ça diminuerait sans doute le nombre de consommateurs. Et puis surtout, la prohibition, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est un échec sanitaire, on n'a pas baissé le nombre de consommateurs et le produit est de plus en plus fort, ce qui est ennuyeux. C'est un échec sécuritaire parce que la politique de répression est un échec et là encore, ça ne marche pas. Et c'est également un échec économique. Donc quand on regarde le sujet, ben, on est tenté de dire oui. Pourquoi pas?
On est tenté de dire oui. Les auditeurs vont pouvoir nous appeler. Il y a une autre question essentielle, c'est quelle est la nocivité réelle du cannabis? Quels sont ses dangers? On a posé la question au professeur Beniamina, qui est addictologue.
La consommation du cannabis lorsqu'on est jeune a d'abord pour conséquence la déscolarisation lorsque elle est régulièrement pratiquée. C'est-à-dire, je suis moins performant à l'école, je suis moins concentré sur mes cours. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les parents se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on peut avoir des symptômes de type psychologique, psychiatrique. On est plus anxieux, on est un peu moins allant, on a des sentiments parano de temps à autre. Et parfois, la consommation nous emmène vers de l'isolement. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être très vigilant. Parce que l'isolement peut peut-être être le premier signe d'une maladie plus grave, ce qu'on appelle les décompensations psychotiques. Parce que le cerveau continue à maturer, et tant que le cerveau mature, il est vulnérable aux attaques liées aux toxiques. La consommation du cannabis chez les jeunes ne les entraîne pas vers les drogues dures. il y a très peu, pour ne pas dire pratiquement jamais, de glissement. En revanche, il faut être vigilant sur la consommation du tabac, de l'alcool, chez les jeunes quand ils sont consommateurs de cannabis.
Voilà le point avec le professeur Beniamina au micro RTL d'Odile Pouget. Emmanuel Macron exclut tout changement législatif pour l'instant, mais réclame un grand débat national. Bonjour Caroline Janvier.
Bonjour.
Vous êtes députée LREM du Loiret et rapporteur d'une mission sur la légalisation régulée du cannabis menée par une trentaine de députés. Alors, en général, on parle de dépénalisation. Vous, vous souhaitez la légaliser. Quelle est la différence ?
Eh bien, la différence, c'est qu'on autorise la production, la distribution et la consommation de cannabis. Et donc, on propose, dans le cadre d'une légalisation régulée, de contrôler l'ensemble de ce circuit par l'État.
C'est
pour
ça.
Pour finalement avoir un contrôle sanitaire des substances, protéger davantage notamment les jeunes consommateurs et évidemment régler les problématiques d'insécurité liées au trafic.
Mmh. Donc pour vous, c'est une façon de mettre fin à une hypocrisie en fait ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation paradoxale, puisqu'on a, vous l'avez rappelé, la première place en termes de consommation de cannabis en Europe, et notamment chez les jeunes, avec une politique parmi les plus répressives. Donc on voit bien que ce qu'on fait depuis 50 ans ne fonctionne pas, et a même presque les résultats inverses.
Mmh. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment enrayer les trafics ? Je pense en particulier aux mineurs, qui n'auront pas accès au marché autorisé, puisque évidemment il sera autorisé aux personnes de plus de 18 ans. Eux, ils seront toujours tentés d'en acheter en douce, non ?
Alors tout dépend de la façon dont on légalise. Et c'est bien pour ça que dans notre rapport, on dit que la vraie question qu'il faut se poser, ça n'est plus vraiment est-ce qu'il faut ou non légaliser, c'est comment légaliser. Et suivant le modèle qu'on met en place, et on propose de créer un modèle français, eh bien on peut réussir à assécher, jamais complètement, mais assécher une grande partie du marché noir, et donc à éloigner finalement les jeunes qui n'auront plus accès parce qu'il y aura moins de dealers, parce qu'il y aura moins de ventes de cannabis illégal, et bien éloigner les mineurs de ces consommations-là.
Mmh. Mais est-ce qu'on ne va pas déplacer le problème vers des drogues plus dures ?
Alors en réalité, c'est ce qui se produit actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs de cannabis, leurs interlocuteurs, ce sont des dealers qui vont lui proposer déjà du cannabis de très mauvaise qualité, hein, parfois coupé à tout un tas d'autres substances, s'agissant de la résine notamment,
oui.
Mais qui vont aussi leur proposer drogues beaucoup plus dangereuses, de l'héroïne, de la cocaïne, des drogues de synthèse. Donc on voit bien que cette escalade, elle se produit actuellement, alors que dans un marché régulé où vous avez des boutiques avec une traçabilité du produit et du produit qui se limite au cannabis, eh bien vous avez moins de risques d'escalade.
Mmh. Et puis vous trouvez aussi qu'en fait on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'avec la répression, alors qu'il faudrait plutôt réinvestir la lutte anti-drogue dans une politique de santé, c'est ça ?
Tout à fait. Aujourd'hui la réponse des pouvoirs publics, c'est la répression, et c'est la répression un peu du trafic, mais en grande majorité de l'usage, de la consommation de cannabis. Mmh. Et donc c'est un peu la seule réponse que l'État donne aujourd'hui aux consommateurs, c'est interdit et vous êtes puni éventuellement d'une peine d'emprisonnement. Alors qu'on voit que beaucoup d'autres pays, je pense notamment au Portugal, ont depuis longtemps considéré qu'il fallait privilégier la prévention, le soin, l'accompagnement, pour faire baisser justement la consommation. Mmh. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui en France. On a très peu de politiques publiques en matière de santé et de prévention sur la question de la consommation du cannabis.
Donc il faut réfléchir autrement. Merci beaucoup Caroline Janvier, députée LREM du Loiret. Merci. Au troisième jour du procès de Nordal Lelandais devant les assises de Savoie, ce sont les amis de sa victime, le jeune caporal Arthur Noyer, qui sont venus témoigner ce matin. Et ce qu'ils disent de leur ami ne colle pas avec l'histoire que raconte l'accusé Anne Le Hénaff.
Ah non, et sur plusieurs points. Le caractère, d'abord, c'était quelqu'un d'adorable, se souvient Vincent, 27 ans, qui était le filleul d'Arthur dans sa section de chasseurs alpins. Je ne l'ai jamais vu s'énerver, agresser quelqu'un ou porter des coups. Les trois anciens militaires qui ont patrouillé avec Arthur dans les rues en uniforme, mais aussi de bar en bar les soirs de fête, racontent tous qu'il avait l'alcool joyeux, festif. Il ne cherchait pas les embrouilles, ça ne le rendait pas agressif. Deuxième point, le téléphone portable. Arthur n'y était pas accro, pas du tout. Il aurait pu vouloir se venger si on lui avait volé. Non, Théo est catégorique, une bagarre c'est impossible. Même si tous assurent en réponse aux questions des avocats de Lelandais qu'Arthur Noyer savait se défendre, ils n'ont pas l'air de croire à la version de l'accusé qu'il a encore répétée hier. C'est une bagarre qui aurait mal tourné. Arthur a frappé le premier pensant que Lelandais venait de lui voler son portable. Il venait de le prendre en stop. Arthur voulait aller à Saint-Baldoff, un village à quelques kilomètres au sud de Chambéry. Et là aussi ça coince. Arthur ne connaissait personne à Saint-Baldoff, assure Vincent. Il n'y était jamais allé.
Récit d'audience Anne Lehenaf en direct du palais de justice de Chambéry pour RTL. Dans un instant, un journaliste français disparu au Mali, il se dit otage d'un groupe djihadiste.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un journaliste français affirme avoir été pris en otage par un groupe djihadiste au Mali. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Olivier Dubois demande à la France de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le libérer. Pour l'instant, le Quai d'Orsay confirme seulement sa disparition. Anthony Fouchard, il aurait été enlevé début avril et se trouverait entre les mains d'un groupe terroriste, le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
C'est une courte vidéo de 21 secondes qui a commencé à circuler massivement à l'aube sur les réseaux sociaux. Olivier Dubois, correspondant notamment du journal Libération, apparaît vêtu d'un boubou clair, la barbe soigneusement taillée. Il est assis sous une toile de tente et affirme avoir été enlevé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale coalition terroriste au Sahel. Olivier Dubois est installé au Mali depuis 6 ans. C'est un journaliste expérimenté, habitué des sujets sensibles, notamment ceux liés au terrorisme. Début avril, il avait rendez-vous avec un cadre djihadiste dans la ville de Gao, au nord du Mali. C'est à ce moment qu'il aurait été piégé par ses contacts et qu'il a disparu. Depuis, ses proches et les autorités françaises avaient décidé de ne pas ébruiter la nouvelle pour tenter de retrouver sa trace. Avec la diffusion de cette vidéo, l'enlèvement est désormais officiel. C'est le même groupe qui avait kidnappé Sophie Petronin, libérée en octobre dernier, et qui détient toujours au moins 5 autres otages occidentaux, quelque part au Sahel.
Seul Pompidou avant lui avait choisi d'évoquer la mémoire de Napoléon. Emmanuel Macron déposera cet après-midi une gerbe au pied de son tombeau sous la coupole majestueuse des Invalides. Il souhaite commémorer la mémoire de l'empereur sans pour autant la célébrer. Une voie étroite pour un personnage aussi admiré que controversé. Aigle pour les uns, ogre pour les autres. Napoléon s'est éteint à Sainte-Hélène il y a 200 ans pile, le 5 mai 1821. Mais en 1814, il avait été envoyé en exil sur l'île d'Elbe où il est resté 300 jours. Et là-bas, Olivier Bonnel, son souvenir est partout.
Dominant les vagues de la Méditerranée, un nid d'aigle veille sur Portoferraio, le chef-lieu de l'île d'Elbe. Nous sommes à la Palazzina dei Mulini, l'une des deux résidences où vécut Napoléon ici sur cette île située entre Corse et Toscane.
Bonjour, benvenuti alla Villa dei Mulini.
Francesco, le gardien des lieux, nous ouvre la propriété. La Palazzina dei Mulini fut la demeure parfaite pour Napoléon, un hôte surveillé de très près par les Anglais.
D'ici, il pouvait voir tous les navires qui arrivaient et qui partaient. Il avait déjà en tête de s'échapper.
À Elbe, Napoléon est partout. Sur les bouteilles de bière, les enseignes de restaurants. À l'autre bout de l'île, sur la commune de Poggio, coule la source Napoléon. Une eau pure qui jaillit de la montagne, où deux siècles plus tard, de nombreux Elbois font la queue pour remplir leurs bouteilles, comme Giuseppe et Chira, venus de la ville voisine.
L'acqua est merveilleuse.
Elle est merveilleuse. L'eau de Napoléon est l'une des meilleures d'Europe.
Napoléon est toujours vivant, même s'il n'est plus là, il vit et vivra toujours chez les gens ici dans leur mémoire.
Napoléon est toujours vivant à Elbe. Et même si les festivités sont réduites cette année en raison de la pandémie, le bicentenaire de sa mort y sera dignement célébré en espérant un retour prochain des touristes.
Football, c'était Waterloo pour le PSG hier soir. Les Parisiens n'ont donc pas réussi à accéder comme l'an dernier à la finale de la Ligue des Champions, battue 2-0 par Manchester City. Et c'est beaucoup plus qu'une défaite, Nicolas Georgeon.
Oui, parce qu'il y a déjà urgence à soigner les têtes. La déception, dimanche soir, le PSG sera Rennes pour la lutte en Ligue 1. Les Parisiens auront peut-être d'ailleurs à ce moment-là au coup d'envoi, eh bien 4 points de retard si les Lillois s'imposent à Lens vendredi. Il ne faudra pas trembler, comme il ne faudra pas trembler non plus à Montpellier dans une semaine pour la demi-finale de Coupe de France. Depuis 2012, il y a toujours eu au moins un trophée chaque saison dans la vitrine du club de la capitale. Le terrain, mais aussi la coulisse, les contrats, Neymar, Mbappé, dossier brûlant pour la direction du club, les rémunérations certes, mais surtout le projet sportif, quelle garantie adressée aux deux stars pour viser plus haut encore, car cette campagne de Ligue des Champions, aussi brillante, aussi forte en émotion soit-elle, eh bien, a également été déconcertante. le PSG finit par 3 défaites d'affilée et aucune victoire à domicile dans la phase à élimination directe.
Et on saura ce soir qui de Chelsea ou du Real Madrid affrontera Manchester City en finale de la Ligue des Champions.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Un convoi d'une dizaine de tracteurs qui parcourt près de 50 km encadré par des motards de la gendarmerie. La scène est assez inhabituelle. Elle s'est déroulée en début de semaine en Touraine. À l'origine de cet élan de solidarité, un incendie dont a été victime un éleveur de chèvres de Savonnières, Christian Panvert.
Oui, le feu a entièrement détruit son hangar. 200 tonnes de paille de fourrage et la réserve de grains sont parties en fumée. Plus rien pour nourrir les 500 chèvres de l'exploitation et les 70 chevaux du centre équestre voisin. Pascal Foucard doit alors parer au plus pressé.
Pendant les flammes, réfléchir à comment on va faire pour nourrir les animaux le soir et le lendemain et sur le lendemain et les jours qui suivent, quoi. Parce que des chèvres qui sont traites deux fois par jour ne peuvent pas attendre. Il fallait faire la traite du soir coûte que coûte.
Sa voisine lance un appel sur les réseaux sociaux. Aurélien Bruer n'hésite pas une seconde. Ce céréalier de Saint-Laurent-en-Gâtine se préparait à monter une chèvrerie. Après le refus des banques, il avait un stock de fourrage. Il propose de l'offrir à Pascal et organise même l'acheminement.
On a monté le projet, réuni une dizaine d'agriculteurs, 10 tracteurs avec plateau à paille. Donc on a quand même transporté 270 bottes. De paille et foin. Et donc on a été escorté par la gendarmerie motorisée pour pouvoir nous aider.
Pascal Foucard reconnaît avoir été très ému lorsqu'il a vu le convoi arriver.
Il y a encore des grands cœurs, oui. Ça fait du bien.
Il a désormais 2 mois de stock pour nourrir ses animaux.
Et merci pour ce bel élan de solidarité, Christian Panvert. Pascal Pro, le dialogue s'ouvre dans 5 minutes au 32-10.
Exactement, le 5 mai, c'est effectivement la mort de Napoléon, certes, mais c'est surtout l'anniversaire de Christian Olivier. Quand même, donc faut lui rappeler le chef
historique. Il essaie de garder ça secret.
Le chef historique du service des sports, mais je ne dirai pas son âge.
Il va vous adorer.
Mais il sait l'amitié que je lui porte. Donc on pourra parler, non pas de Christian Olivier, faut-il commémorer Christian Olivier ? C'est pas notre question, mais faut-il commémorer ou célébrer ? J'ai regardé quand même la définition. Oui, je me suis quand même amusé. Commémorer, rappeler par une cérémonie le souvenir et célébrer, c'est marquer un événement par une cérémonie. Donc commémorer ou célébrer, si vous me permettez, c'est vraiment, il y a le fil de ce que vous disiez.
Non, c'est intéressant.
Mais c'est la même chose, c'est deux mots qui sont synonymes. En revanche, faut-il légaliser le cannabis ? Il y a des questions comme ça qui reviennent régulièrement. Est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions ?
Mais là, c'est pas juste dépénaliser, là, c'est légaliser.
Oui, bien sûr.
Oui, mais... vous disiez le PSG, est-ce que va gagner ?
Oui, c'est comme, c'est une question qui revient tout le temps. Donc on pourra, mais on la posera dans 20 ans, effectivement, les deux mêmes. Et puis, le programme des auditeurs.
Okay. À tout de suite. La météo, Peggy Broche. La neige a bloqué une dizaine de poids lourds dans les Vosges au col de la Chlourte ce matin, 4 cm. De manière générale, Peggy, c'est quand même très frisqué.
Oui, c'est vrai, Christelle. Surtout au nord, on est bien en dessous de la moyenne. À cette période de l'année, on devrait avoir 18 degrés. Je parle d'une moyenne, évidemment, et 20 au sud aujourd'hui. On attend seulement 11 degrés à Metz. Oui, aïe, ça pique. Ainsi qu'au Havre, 12 à Brest, pas plus, ainsi qu'à Lille. 13 à Paris, Tours, Besançon, 15 à Limoges, 16 à Lyon, 19 à Toulouse et Auch, 22 à Marseille, quand même 23 à Perpignan. Alors, côté ciel, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, hein, entre nuages, éclaircies, quelques averses, notamment sur le nord-est. Pas mal de vent également sur toute cette zone. Et puis de la neige, encore, vous l'avez dit, il y en aura encore cet après-midi sur les Vosges, notamment dès 900 mètres, 1100 mètres sur le Jura, 1400 mètres sur les Alpes du Nord, où il reste encore quelques traces de la perturbation avec de faibles pluies. Pareil sur les Pyrénées, encore quelques gouttes. Et puis ailleurs, c'est un temps sec sous un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Les nuages sont plus nombreux entre la Bretagne et le Poitou et c'est plus lumineux du sud-ouest au massif central, même bien ensoleillé près de la Méditerranée et la Corse, avec beaucoup de vent et un vent qui va se renforcer sur le Cap Corse à 130 km/h.
Et demain, c'est l'automne.
Oui, un temps bien perturbé avec des pluies soutenues sur les trois quarts nord du pays. Seules les Pyrénées, entre les Pyrénées et les Alpes et la Corse, garderont un temps plus sec.
Je ne sais pas si on va vous pardonner ça. Merci Peggy.
Je reviens quand même demain.
Oui, j'espère. À suivre le rappel des titres.
RTL.
13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
C'est une question qui traverse les années. Faut-il légaliser le cannabis ? Nous sommes avec Christophe qui est policier. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Oui ou non ?
Question morale pour la société et l'ensemble des concitoyens français, effectivement, sur la légalisation ou pas du cannabis.
Et vous ne nous avez pas donné trop votre avis, mais c'est un bon teasing quand même. Christelle, le rappel des titres.
Il déposera une gerbe au pied du tombeau de Napoléon sous la coupole des Invalides, 200 ans après la mort du petit caporal corse devenu empereur. Emmanuel Macron veut commémorer sans célébrer ce personnage qui suscite encore bien des passions. Il faut légaliser le cannabis, c'est la conclusion d'un rapport parlementaire. Pour reprendre le contrôle face aux trafiquants et mieux protéger les mineurs, il préconise d'étatiser la production et la vente du cannabis aux personnes majeures. Un journaliste français affirme dans une vidéo avoir été pris en otage par un groupe de djihadistes au Mali. Le Quai d'Orsay confirme sa disparition. Une bonne nouvelle sur le front de la pandémie, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, ne dépasse plus les 400 dans aucun département français. Même si le niveau reste haut, le reflux s'accentue. Par ailleurs, un quart des Européens ont reçu au dernier bilan au moins une dose de vaccin. La crise n'est pas finie chez les Républicains. À l'instant, le maire LR de Toulon, Hubert Falco, annonce qu'il quitte son parti en déplorant le sauf qui peut, et je cite, le rétrécissement de la ligne de LR qui oublie des enjeux essentiels auxquels il doit répondre.
Les auditeurs ont la